Bonjour à tous et bienvenue au culte du dimanche 23 novembre. Quel plaisir de vous revoir après mon retour. Et je sais que nous avons des choses merveilleuses à discuter. Amen. Avant de partir, le dimanche d'avant, nous avions parlé de... Merci. L'impact du Saint-Esprit sur le corps humain. Et je vous ai dit que c'était la partie 1. Ce qui signifie qu'il y aura en tout cas une partie 2, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y aura une 3, 4 ? Ça, on verra. Mais en tout cas, si je dis qu'il y a une partie 1, de manière logique, il y a une partie 2 qui va suivre. On est d'accord ? Donc, on va continuer avec la partie 2 aujourd'hui. Parce que l'Esprit de Dieu exerce un ministère. Vous voyez, est-ce que l'Esprit de Dieu passe par nous pour exercer l'amour auprès des autres ? Oui. L'Esprit de Dieu passe par nous pour exercer la gentillesse et la construction. Et il passe par nous pour construire autrui et construire son royaume sur terre, n'est-ce pas ? Cependant, on doit comprendre que le Saint-Esprit a un ministère et une œuvre au travers de nous ou par nous. Hein, et il a également une œuvre en nous, qui sont deux œuvres distinctes. On va le voir aujourd'hui, vous n'en faites pas. Dites l'impact du Saint-Esprit sur mon corps. Le Saint-Esprit a une œuvre en vous. On va voir la première section. Donc, j'ai divisé le message en parties et ce message-là est divisé en sections. La première section, c'est Dieu vit en nous. Dites Dieu vit en moi. Prenez Éphésiens, vous allez voir. Éphésiens 2, 22. Donc, Éphésiens chapitre 2 et verset 22. Voyons ce que la Bible a à nous dire. Parce que la Bible a toujours raison, n'est-ce pas ? Elle nous pousse toujours à la construction. En qui vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Le Saint-Esprit vit en vous. Dites, le Saint-Esprit vit en moi. Et j'aimerais que vous compreniez que cette réalité est vraie, non pas parce que vous en percevez quelque chose, mais parce que Dieu le dit. Le Saint-Esprit habite en vous d'une manière finale. C'est fait. Le Saint-Esprit habite en vous si vous êtes enfant de Dieu et que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, peu importe les erreurs ou les bonnes actions, soit dit en passant. Parce que souvent, on va d'un côté, vous voyez, on dit, telle personne a fait telle erreur. De ce fait-là, le Saint-Esprit n'est plus mérité. Mais on peut aller dans l'autre côté où les gens vont dire, tu as fait tellement de bien que le Saint-Esprit se doit de vivre en toi. Et c'est faux les deux. Le Saint-Esprit vit en nous par accord avec ce que Christ a fait pour nous. Amen. Dites, le Saint-Esprit vit en moi. Et donc, vous devez comprendre que nous sommes édifiés pour que le Saint-Esprit vive en nous. Et le Saint-Esprit vit en nous. Amen. Le Saint-Esprit vit en nous. Il vit en nous par l'Esprit Saint. Et ça, vous devez faire la différence. D'accord ? C'est le même Esprit Saint. Et il opère un ministère en nous. N'est-ce pas ? Et il opère un ministère à travers nous. Vous voyez ? Ça explique pourquoi des hommes de Dieu peuvent mourir malades, alors que le Saint-Esprit est passé par eux pour faire des grandes œuvres. Vous voyez ? Et donc, notre rôle en tant que chrétien, quand il s'agit de l'impact du Saint-Esprit sur le corps humain, est de comprendre comment laisser libre cours au Saint-Esprit pour opérer son œuvre en nous. Vous voyez ? Le chrétien ne doit pas demander au Seigneur d'opérer une œuvre en lui. Vous voyez ? Le Saint-Esprit opère déjà son œuvre dans votre corps. La question, c'est à quel point il est libre de faire ce qu'il veut. Vous voyez ? On va voir un passage dans les Écritures tout à l'heure qui est très, très intéressant, qui est presque auto-contradictoire, mais qui explique justement cette différence. Dites, le Saint-Esprit vit en moi. 2 Corinthiens 6, 16. J'aimerais vous montrer ce ministère du Saint-Esprit, parce qu'il vit en vous. Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Notez qu'il n'a pas dit le temple de Dieu et le temple des idoles. Il a dit le temple de Dieu et les idoles. Donc il n'est pas en train de comparer le temple de Dieu, c'est-à-dire là où on sert le Dieu vivant, c'est-à-dire vous, et le temple des idoles là-haut, c'est-à-dire les gens qui sont oppressés par le diable et qui habitent des démons, n'est-ce pas ? Il ne compare pas les deux. Il dit, pourquoi est-ce qu'une idole vivrait dans le temple de Dieu ? C'est ça qu'il est en train de dire. Il ne compare pas deux temples ou deux lieux d'habitation d'idole ou de Dieu vivant. Il compare le temple du Dieu vivant avec une idole qui irait dedans. Vous voyez la nuance ? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Selon ce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai et je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Rappelez-vous, j'y marcherai, ça veut dire qu'ils parambulent dans le corps, comme ça, il parambule, il passe d'un côté à l'autre pour voir ce qu'il y a à corriger. Amen. Donc le Saint-Esprit est à l'œuvre en vous, l'impact du corps, du Saint-Esprit sur le corps humain. C'est quoi la différence entre Saint-Esprit, Esprit Saint, l'Esprit de Dieu? C'est juste des expressions, c'est la même personne. D'accord? C'est comme quand on dit Jésus-Christ, Jésus, le Messie, le Fils, c'est la même personne qu'on parle, ok? Et j'aimerais maintenant qu'on puisse prendre Romains 8 à partir du verset 1. Donc accrochez-vous parce qu'il faut suivre cette fois. Suivez bien. Romains chapitre 8. La Bible nous montre des merveilles à partir du verset 1. Il n'y a donc, notez bien, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Non, non. Notez bien. Pour ceux qui ont fait des bonnes actions. Non, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Notez qu'il n'a pas dit pour ceux qui sont en Jésus-Christ jusqu'à un tel niveau de péché. Après tel niveau de péché, il faut aller faire autre chose. Non, il n'y a aucune condamnation. Aucune est une exclusion absolue. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation n'est à l'œuvre en vous. Aucune condamnation ne peut fonctionner sur vous. Amen. Verset 2. Et il explique pourquoi. Car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Notez bien quelque chose, ce n'est pas la loi du péché, ce n'est pas une loi qui comporte péché et mort. C'est la loi du péché d'un côté et la mort de l'autre. D'accord ? On pourrait dire, il m'a délivré, verset 2, m'a affranchi de la mort et de la loi du péché. Vous voyez ? Ce n'est pas une loi qui comprend le péché et la mort. C'est la loi du péché d'un côté et la mort de l'autre. D'accord ? Donc il n'y a pas une loi du péché et de la mort. C'est juste la loi du péché. C'est clair ? Super, continuons. Car ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu, ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair. Laissez-moi vous expliquer juste ça rapidement, ce verset 3. Il est en train de dire que la loi, c'est-à-dire la loi qui dit « tu ne feras pas ça, tu feras ci », ne pouvait pas purifier l'être humain de son péché originel. Vous voyez ? Donc ce que Dieu a fait, c'est qu'il a pris la perfection. Il a pris le Fils, n'est-ce pas ? Enfin, la parole de la Trinité. Et il l'a incarné dans la chair humaine, en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'incarnation même de Dieu dans un corps humain. Et en prenant cette apparence du corps humain, il a pu tuer le péché originel. C'est pour ça que Jésus a dû devenir un homme. C'est pour ça qu'il a été crucifié. D'accord ? Mais son œuvre ne s'est pas arrêtée au fait de tuer le péché originel. Il ne s'est pas arrêté tout court, son œuvre d'ailleurs. Parce que sinon, Jésus n'aurait pas eu besoin de ressusciter. Si tout ce qu'il voulait faire, c'était tuer le péché originel, il avait juste à mourir sur une croix et rester mort. Mais non, il voulait qu'on puisse ressusciter dans sa vie, amen. Et ensuite qu'on puisse être élevé à la droite de Dieu. D'accord ? Donc Jésus-Christ n'est pas venu vous pardonner vos péchés. Il l'a fait. Il l'a fait. Il a fait la rémission de vos péchés. Mais il n'est pas venu pour ça. C'est comme si, quand j'étais petit, on allait au sud de la France régulièrement. Et on passait par des étapes et on s'arrêtait dans des restaurants. Et on profitait parce qu'il y avait toujours des bons petits restaurants, des belles, ça, vous savez, ça sentait le sud de la France. Vous savez qu'on commence à approcher certains endroits en France, ça commence à sentir le sud, il y a les cigales qui font leurs chants et tout ça. Et vous voyez que c'était une étape merveilleuse parce qu'on en profitait, il y avait des places de jeu, il y avait des douches, on faisait des fous, vous voyez. Mais ce n'était pas la destination finale, vous voyez l'idée. Et donc quand Jésus vous a pardonné ou vous a fait la rémission plutôt de vos péchés, ce n'était pas une destination finale. Il n'est pas venu pour ça. Mes parents ne nous emmenaient pas au restoroute. Vous voyez ? Ils ne nous amenaient pas sur l'aire d'autoroute. Ce n'était pas le but des vacances. Mais en y allant, on s'y arrêtait, vous voyez ? On s'y arrêtait en cours de route. Et en plus, c'était un beau moment. Moi, je me rappelais parce qu'on avait toute une petite équipe. Mon papa, il avait une entreprise à l'époque. Il avait des grands bus comme ça. On était quoi, une dizaine dedans, même plus. Et on allait là-bas. Et c'était toujours chouette. On se marrait. On passait du temps ensemble et tout. Mais ce n'était pas la destination finale. Il y avait une destination finale qui nous attendait. Dites, je suis arrivé. Vous voyez, il faut comprendre quelque chose. La rémission de vos péchés que Jésus-Christ a fait, là, au verset 3, il faut comprendre que c'était cette étape qu'il fallait passer, vous voyez, pour pouvoir nous faire marcher dans la réalité de l'Évangile. Mais Dieu n'est pas venu en soi pour vous racheter de vos péchés. C'était juste l'étape nécessaire. C'était l'autoroute à prendre. C'était l'étape où il fallait recharger l'essence, vous voyez ? C'était le chemin à faire pour qu'on puisse arriver à la destination finale qui est avoir la nature de Dieu. Ok ? On pourrait en parler des heures, la nature de Dieu. Dites, j'ai la nature de Dieu. Continuons. Verset 4. Ouh, c'est beau, hein. Afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous. Vous voyez ? Donc, il y avait une exigence de la loi. On devait être dans la perfection divine. Mais ce que Dieu a fait, c'est qu'il a envoyé Christ dans un corps humain. Il a accompli cette perfection divine en tant qu'être humain. Vous voyez ? Et grâce à ça, nous, maintenant, on est héritiers de cette même perfection. Vous voyez ? Donc, Jésus-Christ, c'est pour ça que la Bible dit « tel il est, tel nous sommes dans ce monde ». Notez qu'il n'a pas dit « tel il était quand il était sur terre ». Il a dit « tel il est maintenant, tel nous sommes dans ce monde ». N'oublie pas une chose, Jésus est monté au ciel physiquement. Hein. Son corps est monté au ciel. Jésus est dans son corps physique encore aujourd'hui au ciel. Alors les gens me demandent la question métaphysique, est-ce que le ciel c'est spirituel, c'est physique ? Je n'ai pas vraiment de réponse. Mais je peux vous dire que le corps de Jésus est physiquement au ciel. Alors est-ce que c'est un endroit dans l'espace à la fin de nos frontières physiques ? Je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. Mais je peux vous dire que le royaume de Dieu a un impact sur la terre et le monde physique. Amen. C'est pour ça que quand vous êtes en bonne santé, c'est l'Esprit de Dieu qui vous garde en bonne santé. Amen. L'Esprit de Dieu vient et corrige les choses à faire. Voyez. Amen. Continuons. Pardon. Excuse-moi, il manque un petit bout. Qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Dites, je marche selon l'Esprit. Après, il dit quoi ? Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair. Mais ceux qui sont selon l'Esprit, aux choses de l'Esprit. Notez qu'il a dit ça après avoir dit qu'il marchait par l'Esprit. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fait que vous marchez par l'Esprit n'est pas dépendant du fait que vos pensées sont justes ou fausses. Il dit, vu que vous marchez par l'Esprit, maintenant, ayez les pensées de ceux qui marchent par l'Esprit. Voyez ? Regardez, est-ce qu'une personne peut être née de l'Esprit de Dieu, croire en Jésus-Christ et avoir des pensées contraires à Dieu ? Est-ce que c'est possible ? Oui. Est-ce que ça change son identité d'enfant de Dieu ? Non. De la même manière que si une personne qui est mauvaise a soudainement une bonne pensée, ne fait pas d'elle un enfant de Dieu. Vous voyez un peu l'idée ? Il faut comprendre ça. Notre identité en Christ est due à qui Dieu est, pas à qui nous sommes ou à ce que nous avons fait. C'est pour ça que ces histoires de condamnation constante où les gens se cherchent des pénitences et ce genre de choses-là, ça dépend. La pénitence, c'est le fait de s'auto-donner des choses difficiles pour se rapprocher de Dieu. Ça dépend de quoi on parle. Si on parle « je fais ça pour que Dieu m'accepte », c'est laisser tomber. Dieu ne peut pas vous accepter sur la base d'une bonne œuvre. Il est beaucoup trop puissant. D'accord ? Toute religion qui fait penser ça, soit c'est une fausse religion complètement, il y en a une qui me vient en tête, pas besoin de la nommer, mais peut-être vous l'avez en tête, où ils pensent qu'en faisant des bonnes actions, Dieu va les accepter. Vous voyez ? En gros, ils doivent croire et en plus après ils doivent prier tant de fois par jour et Dieu fait que ah, t'as pas prié assez aujourd'hui. Non, vous comprenez ? Dieu est beaucoup trop puissant pour ça. Dieu est beaucoup trop grand pour ça. Aucun être humain ne peut arriver à sa cheville. Personne par sa perfection humaine n'arriverait au niveau d'exigence de Dieu. L'exigence de Dieu est telle, telle, que même le fait de faire un pas hors du domaine de la foi, c'est déjà une condamnation éternelle à l'enfer. Personne ne peut arriver à Dieu. C'est impossible par ses propres forces. Et c'est pour ça qu'il a dit, on doit accepter ce cadeau gratuit du Christ. Vous voyez l'idée ? On ne peut pas accéder à Dieu par nos propres œuvres. Alors attention, il y a des œuvres qu'on doit faire pour profiter un maximum de la grâce de Dieu. Ça oui. C'est-à-dire que la grâce de Dieu est disponible et on coopère avec cette grâce. Et c'est pour ça que les gens qui font pénitence, par exemple, quand ils jeûnent pour discipliner leur corps et discipliner leurs pensées, ça c'est magnifique, c'est un truc beau à faire. Mais si les gens disent « je vais jeûner pour forcer Dieu d'agir en ma faveur », ça non. Vous voyez un peu l'idée ? Ça peut être le même jeûne. Ça dépend juste quelle est l'intention derrière. Dites « mes intentions sont justes ». Donc là, vous voyez qu'il dit « ceux qui sont de l'esprit pensent des choses de l'esprit ». Vous devez avoir vos pensées qui sont sur l'esprit. Continuons juste. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vous savez, quand il dit pensée de la chair, à cause de beaucoup d'enseignements, les gens font systématiquement le lien chair-sexe, chair-sexualité. C'est pas ça, il n'est pas en train de parler de pensée sexuelle. Là. Il parle de réfléchir d'une manière charnelle, de réfléchir avec ce qu'on voit, ce qu'on perçoit. Vous voyez ? On a été transposé en tant qu'enfant de Dieu dans la réalité de Dieu. Okay ? Et on doit le voir et le croire. Et ça fait peu de sens pour l'être humain, mais ça fait beaucoup de sens. Depuis quand ça fait du sens de quitter son travail, si Dieu vous le dit, pour faire quelque chose ? Depuis quand ça fait du sens qu'un jeune homme pourrait avoir une idée phénoménale et lancer un business ? Depuis quand ça fait du sens, ce genre de choses-là ? Depuis quand ça fait du sens de dire je refuse? Si je suis malade, je vais exprès aller combattre ma maladie en allant au fitness. Depuis quand ça fait du sens, ce genre de choses? Vous voyez? C'est parce qu'on est enfant de Dieu, ça fait du sens. Depuis quand ça fait du sens de refus? Depuis quand ça fait du sens de donner son argent pour en obtenir plus? Ça fait aucun sens. J'étais au fitness. Il y en a un qui a dit « Ah ouais, toi tu tombes jamais malade ?» Puis j'ai dit « Non, j'aime pas être malade, donc je ne tombe pas malade. » Puis t'es là, mais on ne choisit pas qu'on tombe malade. Je suis là, toi, peut-être que tu ne choisis pas, mais moi, oui. J'ai horreur de la maladie. La maladie, c'est toujours le diable qui veut me voler quelque chose. Toujours. Vous pouvez demander à ma maman une fois. Je parle avec elle au téléphone et je fais « Maman, je suis désolé, je vais juste couper la conversation parce que je sens qu'il y a la grippe qui est en train de venir. » En fait, c'était le Covid. Le Covid qui est en train de venir. Je vais juste aller prier un moment parce que j'ai pas envie d'être malade. J'ai horreur de ça. Donc en fait, quand je vois le truc qui commence à venir, tout de suite je le prends. Vous voyez? Et paf! Ne laissez pas les choses devenir trop grosses. Hein. Donc je commence tout de suite à prier. Zeka, shata, kayaba, c'était peut-être une demi-heure. Et tous les symptômes, bien sûr, ont disparu complètement. C'est parce qu'on le saisit. Et je vais vous montrer, on laisse l'Esprit Saint en fait exercer son ministère en nous. Vous voyez, il est là. Continuons. Verset 7. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Notez bien qu'il dit quelque chose. Il dit la pensée charnelle. Il ne dit pas la chair elle-même. Votre corps peut être soumis à Dieu complètement. D'accord? Sachez-le, hein, votre corps humain, votre corps physique peut être entièrement soumis à Dieu. Verset 8. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Sachez une chose, hein. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu avec tous vos plans de vie à vous. Hein. Plaisez au Seigneur en suivant sa parole. Amen. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Notez encore quelque chose. Il a dit, si l'Esprit de Dieu habite en vous, si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez l'Esprit de Dieu, il vit en vous et vous êtes de l'Esprit. Donc, notez bien de nouveau que votre identité en Dieu dépend de Dieu et de votre foi, pas de ce que vous avez fait de juste. Notez. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas à lui. Dites, j'appartiens à Christ. Regardez le verset suivant. Mais si le Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché. Il y a une erreur de traduction là. Laissez-moi l'expliquer. Il dit en réalité, le corps, bien que mort à cause du péché, ou s'il était mort à cause du péché. Donc c'est-à-dire, si une personne vient à Christ et que son corps a été détruit par le péché, pensez aux gens, par exemple, qui ont des vies sexuellement immorales, qui chopent des maladies et ce genre de choses-là. Même si leur corps a été détruit par le péché, regardez, l'esprit, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et après, il précise, et si l'esprit, notez bien, et si l'esprit, l'autre terme pourrait dire, et vu que l'esprit. Vous voyez, si, on peut le dire, c'est si, dans le sens conditionnel, ou plutôt, dans le sens affirmatif, vu que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous voyez un peu? C'est pas si ou manière conditionnelle, là c'est vu que. Et vu que l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels. Aussi, notez qu'il a dit, Jésus, l'Esprit de Jésus habite, présent, vivifiera, futur. Pourquoi? Parce que sa seule présence ne garantit pas qu'il exercera son ministère. On doit lui laisser libre cours. Vous voyez? Donc l'Esprit habite en vous, fini. Et il peut vivifier vos corps mortels si vous collaborez avec lui. Regardez, c'est pour ça. Celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son Esprit qui habite en vous. Donc il reprécise encore. C'est le fait que l'Esprit habite en vous, pas vos bonnes œuvres. Maintenant, il y a une différence entre une bonne œuvre pour essayer d'obtenir l'approbation de Dieu, ça c'est, vous pouvez laisser tomber, personne ne peut arriver à ce niveau, et il y a une bonne œuvre pour vivre dans l'approbation de ce que Dieu nous a donné. Donc c'est-à-dire qu'il y a une bonne œuvre qui va dire « j'essaye de m'approcher de Dieu via cette bonne œuvre ». Ça vous oubliez, Dieu ne la tolérera jamais, parce que c'est presque blasphématoire envers Dieu. Lui, Dieu, on l'atteint par une bonne œuvre. Comment? Vraiment? Mais de l'autre côté, il y a « vu que je suis en Dieu, je vais jouir de ce qu'il m'a donné » en faisant une bonne œuvre. C'est différent. Vous voyez la différence? Elle est importante. Et dit, ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas à la chair pour vivre selon la chair, verset 13, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont là, sont fils de Dieu. Dites, je suis fils de Dieu. Alléluia. Les gens disent, est-ce que je peux dire fille de Dieu? Non. Non. Vous êtes tous fils de Dieu, et vous, messieurs, vous êtes tous la fiancée de Christ. l'épouse de Christ. Alors voilà. Non, fils, un statut. Amen. Prenons Jean. Vous devez savoir quelque chose. Votre corps physique aujourd'hui, grâce à l'Esprit de Dieu, n'est plus maintenu par votre sang. D'accord ? Il est maintenu par l'Esprit de Dieu qui parambule votre corps. Amen. Et donc, tout problème, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appart au sang du Christ. Pourquoi ? Parce qu'on est maintenu, non pas par notre sang naturel. Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Regardez cette merveille. Vous allez voir cette merveille. Dites « J'aime la parole de Dieu ». Notez bien. Dites « Ma vie n'est plus de sang, mais d'esprit ». Donc l'esprit parambule votre corps. Voyez, regardez. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, dites « Je l'ai reçu », il leur a donné le droit ou le pouvoir d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Mais regardez. Lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ok, laissez-moi vous expliquer quelque chose qui s'est produit. Quand Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ meurt sur la croix, après avoir été torturé pendant des heures. Il meurt sur la croix. La Sainte Mère de Dieu est devant lui. Vous imaginez voir son propre fils mourir comme ça. L'apôtre Jean est là aussi. Marie-Madeleine est là aussi. Et là, tout d'un coup, ils disent « Cassons les jambes des autres gens crucifiés afin qu'ils meurent rapidement. » Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Quand quelqu'un a été crucifié, il était comme ça, pendu. Et en fait, à cause de la structure de leur corps, pour pouvoir respirer, ils devaient pousser sur leurs jambes, prendre une inhalation et relâcher. Donc c'était une agonie d'heures. Et en fait, en leur cassant les jambes, la personne mourait étouffée. Dans les 3-4 minutes, elle était morte. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait plus la force de pousser ses jambes. Et donc, ils arrivent vers le Christ pour lui casser les jambes. Mais la Bible dit qu'aucun de ses os n'a été brisé. Il y a une raison pour laquelle, je vais vous l'expliquer une fois, pas aujourd'hui. Il y a une raison pour laquelle il a pris toutes les maladies du corps, sauf les os brisés. Et ils étaient sur le point de lui casser les jambes. Et là, ils ont dit, il est déjà mort. Ils ont dit, quoi ? Il est déjà mort ? Et là, ils ont pris une lance et ils ont percé le côté ici de Jésus-Christ. Et c'est ce jour-là que l'Église est née, amen. Rappelez-vous, nous sommes l'épouse du Christ, l'Église, amen. Adam, quand c'est que sa femme est née ? Qu'on lui a percé le côté aussi. C'est beau, hein ? C'est quelque chose, hein ? Adam, il a été plongé, et la Bible dit que Dieu a ouvert le côté pour prendre une côte et faire la femme. Ça veut dire quelque chose, hein ? Et il a recousu. Et la Bible dit qu'ensuite, Jésus a écrit « crucifié », ils ont percé son côté, et l'Église est née. C'est pour ça que la Bible dit qu'on est né d'eau et de sang. Pourquoi ? Parce que c'est l'eau et le sang qui sont sortis. La Bible dit que l'eau et le sang sont sortis d'un coup, comme ça, quand ils ont percé son côté. C'est de l'eau et du sang. Pourquoi de l'eau et du sang ? Notez bien quelque chose. C'était parce que son cœur s'était rompu. Vous voyez ? Son cœur s'était complètement arrêté. En anglais, c'est le terme « ruptured ». Il s'était complètement rompu, son cœur. Jésus-Christ est mort d'une crise cardiaque. Levez les mains et remerciez Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. Et il est mort d'une manière absolue. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait. Et vous voyez, et le fait que tout de l'eau et du sang sont sortis, ça voulait dire qu'il n'y avait plus de sang dans son corps. C'est ça que ça voulait dire. L'entier de tous les litres de sang qui étaient dans son corps sont sortis. Maintenant, notez quelque chose de glorieux. Quand Jésus est ressuscité, il n'y avait toujours pas de sang dans son corps. C'est l'Esprit de Dieu qui le maintenait en vie. Vous imaginez ça ? Donc Jésus-Christ est né de nouveau sans S-A-N-S, sans S-A-N-G dans son corps. Plus de sang dans son corps. Et il était maintenu en vie par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, tel il est maintenant, tel nous sommes dans ce monde. Alors, vous dites, mais est-ce que Joachim, j'ai toujours du sang qui coule dans mes veines ? Oui, parce qu'elle porte une fonction naturelle de transporter l'oxygène, transporter les nutriments, d'évacuer le CO2, l'ozone, le CO2 hors du corps. Donc, il y a une fonction naturelle du sang. Mais notez quelque chose, c'est l'Esprit de Dieu qui parambule votre corps et qui vous maintient en bonne santé. Amen. C'est pour ça qu'on n'a pas au sang du Christ. C'est beau, hein ? Maintenant, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Tout ça, c'est bien beau, l'Esprit de Dieu vit en vous. Mais il est possible, notez bien, de frustrer l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, dans votre vie à vous. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu veut parambuler votre corps. Regardez ici, regardez là, faire ça. Mais il est possible de frustrer son œuvre. Ésaïe 63, verset 10. Vous allez voir quelque chose. Comment est-ce possible une telle chose ? Oui, c'est possible. Ésaïe 63, 10 nous dit « Mais ils se rebellèrent et contristèrent, regardez bien, l'esprit de sa sainteté. » Donc ils ont contrit, ils ont frustré l'esprit de Dieu. et il se changea pour eux en ennemi. Lui-même, il combattit contre eux. Ça, j'aimerais vous expliquer. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a dit « maintenant, je vais être méchant ». C'est eux qui ont perçu l'Esprit de Dieu comme mauvais. Et à cause de ça, tout ce que l'Esprit de Dieu faisait pour eux, ils le voyaient en négatif et ils n'agissaient pas en conséquence. Donc quand l'Esprit de Dieu leur a dit « allez maintenant, prenez possession des villes », ils disaient non. Et ils restaient dans le village. Ils restaient dans le désert à mourir. Et Dieu disait « allez, je vous ai livré », ils disaient non. Vous imaginez ? Ne frustrez pas l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, si l'Esprit de Dieu vous dit « par ces meurtrissures, vous avez été guéri », est-ce que vous allez dire non ou est-ce que vous allez dire « j'y vais droit dans les yeux » Quand il dit « il vous a rendu prospère », est-ce que vous allez aller chercher de l'aide à côté ou est-ce que vous allez y aller ? Vous voyez l'idée ? Parce que c'est facile de se moquer un petit peu des gens. Que de... Oh, mais regardez, ils étaient quand même devant des choses un petit peu incohérentes. Hein. La Bible dit que, vous voyez, c'est une question, dites, tout est une question de vision. Donc, il y avait les Israélites. Ils étaient de taille normale, la Bible dit. Ça peut faire rire parce qu'on se dit pourquoi la Bible préciserait un truc aussi précis. Ils étaient de taille normale. Et Dieu leur dit, attaquez ce pays. Prenez ce pays, je vous l'ai donné. Et là, ils vont et ils voient des géants, des mecs de 2,50 m. Vous imaginez ? Et regardez, il y a 10 de ces mecs qui sont là. C'est un endroit horrible, on va tous se faire tuer. N'obéissons pas à l'Esprit de Dieu. Et on a deux, Caleb et Josué. Alors, bravo. Qui, eux, voient l'opposé. Ils disent, mais vous avez vu la taille de ces maisons ? On aura tous des hauts plafonds, vous voyez ? Après, ils voient la taille des récoltes. Ils disent, mais j'ai jamais vu des champs aussi grands. C'est des champs gigantesques qui ont été préparés par des géants. Vous voyez un peu la différence de ce qu'il avait vu ? Lui, il était là, mais attends. Nous, on a nos hauts plafonds à 3 mètres. Vu que c'est des gens qui font 2 mètres 50, mais leurs hauts plafonds, ils sont à 4 mètres. C'est magnifique ! Il voyait quelque chose de beau. Il était là, allons-y, fonçons ! Et les autres, ils ont vu cette même chose et ils ont dit, on va se faire tuer. Comment est-ce que c'est possible d'avoir la même chose, la même vision ? Dans le sens, on voit l'exact même bâtiment. Il y en a un qui va dire, c'est une opportunité. L'autre qui va dire, c'est un problème. Vous voyez ? C'est toujours une question de vision. Donc là, ils ont contrit l'Esprit de Dieu. Vous voyez ? Prenons Deux Rois, chapitre 13. On va prendre juste le verset 14. J'aimerais que vous voyez quelque chose. C'est Élisée, un grand homme de Dieu, mais qui avait des problèmes de colère. La Bible nous le montre. Je ne vais pas vous montrer au endroit précis, mais il avait des problèmes d'émotion. Il n'arrivait pas à réguler ses émotions. Messieurs, mesdames aussi, mais messieurs surtout, apprenons à réguler nos émotions. La colère n'est pas quelque chose de saint, sauf si c'est pour le Seigneur. Amen. Si on est en colère contre l'œuvre du diable, c'est bien, n'est-ce pas ? Non, je ne tolère pas la maladie. Et on y va frontalement, ça c'est bien. Mesdames, gérez vos émotions. Gérez vos émotions. Amen. Nous sommes enfants de Dieu après tout. Il dit, et Élisée était malade de la maladie dont il mourut. Oh oh ! Élisée est mort d'une maladie. Dingue ça, hein ? Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui et pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Des fois, ils avaient ces expressions à l'époque. Mais prenons le verset 21. Il y a des trucs assez intéressants. Et il arriva que... Regardez, donc là, en fait, il se passe quoi ? Juste, tu peux enlever deux secondes le verset ? Il y a un truc, regardez. Donc là, il y a Élisée qui est mort, ils enterrent Élisée. À l'époque, on ne mettait pas les gens en terre, on les mettait dans des espèces de tombeaux. Vous savez ? Et en fait, la chair se défaisait très vite. Mais les os étaient toujours préservés. C'est un petit peu le truc de l'époque. C'était comme ça, voilà. Et là, il se passe quoi ? Il y a des mecs qui transportent le cadavre d'un gars, comme ça. Vous savez, dans les charrues, comme ça, ils transportent le cadavre d'un gars. Et là, ils se plantent. Et regardons ce qui se passe. En transportant le cadavre, ils font une petite erreur. Regardez ce qui se passe. Et il arriva que comme on enterrait un homme, voici, on fait venir la troupe et on jeta l'homme dans la sépulcre, dans le sépulcre d'Élisée. Donc par erreur, ils l'ont mis dans le sépulcre d'Élisée. Mauvais sépulcre. Zut. Et l'homme alla toucher, donc l'homme mort, alla toucher les os d'Élisée et reprit vie et se leva sur ses pieds. Non mais attendez, c'est magnifique comme histoire parce que le gars était mort et bon alors, tombeau numéro machin, hop, et ils le mettent dedans et c'est le mauvais. Et au moment où le corps du mort a touché les os d'Élisée, il est revenu à la vie. Donc ça veut dire que même ses os étaient encore chargés de cette puissance du Saint-Esprit, mais elle n'opérait pas en lui pour le ramener à la vie, lui. Vous voyez l'idée ? Lui est mort, vous suivez ? Lui n'est pas revenu à la vie, mais cette puissance est toujours opérante en lui pour les autres. Comment est-ce possible ? Je vous rappelle, je vous ai dit, le Saint-Esprit a un ministère en nous pour nous, mais il a un ministère au travers de nous. Et ce ministère d'Élisée était tellement puissant, tellement fort, que même après sa mort, l'Esprit de Dieu, il a comme, vous savez, c'est comme une brume qui est restée sur lui pendant quelques années. au point qu'un homme mort a touché ses os. Boum, il est revenu à la vie. Mais lui est mort, malade. Donc cette puissance de Dieu qui est capable de ressusciter un mort était en Élisée tout le temps, pourtant il est mort malade. Vous voyez que c'est possible de ne pas laisser libre cours à l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Pour Élisée, une des raisons, c'est qu'il était colérique. Prenez Luc chapitre 5 et verset 17. Il y avait ces mecs qui n'aimaient pas trop Jésus, c'était les pharisiens, exactement. Alors les pharisiens, c'est un terme global, c'était un groupe de pharisiens spécifiques. Hein. Pharisiens, ça veut juste dire étudiants des Écritures. Alors vous allez voir quelque chose de merveilleux, vraiment. Vous êtes prêts pour cette merveille? Regardez. Luc 5, 17, ouais. Luc, chapitre 5, verset 17. Non, c'est pas encore ça. Ah voilà. Et il arriva l'un de ces jours qu'il, donc Jésus-Christ, enseignait. Donc Jésus est posé comme ça, il enseigne, les gens viennent à lui. Regardez. Et des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de chaque bourgade de Galilée, bourgade, et de Judée et de Jérusalem, étaient assis là. Donc regardez, visualisez. Il est comme ça, et tous les pharisiens étaient là à écouter Jésus. Et notez ce qui s'est passé. Et la puissance du Seigneur était là pour les guérir. Maintenant, si vous regardez en grec ancien, le « les guérir », il parle d'une manière absolue, verset d'avant, d'une manière absolue et définitive des pharisiens et des docteurs de la loi. C'était, en fait, il y a plusieurs manifestations en grec. Le « les guérir », le « les », c'est « eux », vous voyez, et c'est du masculin pluriel. Donc, il n'y a aucune discussion, ça parle des hommes qui étaient là, des pharisiens et des docteurs de la loi. La puissance de Dieu était là pour les guérir. Pas un seul d'entre eux n'a été guéri ce jour-là. C'est un autre qui a été guéri, si on regarde le verset 18, regardez. Et voici des hommes portant sur un lit un homme qui était paralysé et il cherchait à l'introduire et à le mettre devant lui. Et ne trouvait pas par quel moyen il pourrait l'introduire à cause de la foule. Ils montèrent sur le toit et le descendit par les tuiles avec son petit lit au milieu devant Jésus. Et là, je ne vais pas vous montrer tout ça, mais en gros, Jésus guérit cet homme-là. Donc la puissance, verset 17 s'il te plaît, la puissance de Dieu était là pour guérir ces gens-là. Vous voyez ? Mais aucun d'eux n'a été guéri. La puissance de Dieu était opérante, elle était prête, tout comme pour Élisée. La puissance de Dieu était en lui au point qu'une autre personne l'a touché après sa mort et il est revenu à la vie. On parle d'une puissance, n'est-ce pas ? Waouh ! Prenez Luc, chapitre 7 et verset 30. Vous allez voir la même chose, ces mêmes pharisiens. On reparle d'eux de nouveau. Et vous allez voir ce que la Bible nous dit. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi rejetaient contre eux-mêmes le conseil ou le plan de Dieu n'ayant pas été baptisé par lui. Oh oh, on comprend pourquoi aucun d'entre eux n'a été guéri. Mais Dieu a pris le temps de nous montrer que la puissance de Dieu était disponible pour guérir. Maintenant, la différence, c'est qu'elle n'est pas disponible parce que Joachim est là ou parce que Pasteur Chris est là. Elle est disponible en vous parce que l'Esprit de Dieu est là. Donc c'est encore plus puissant. Elle n'est pas juste là parce que Joachim est là, donc il a la puissance de guérir parce qu'il est pasteur. Non, alors bien que ce soit vrai, c'est beaucoup plus profond. Elle est en vous maintenant, opérante maintenant. Et elle est bloquée par certaines choses. L'incrédulité va bloquer ça. La peur va bloquer ça. Vous voyez ? Le manque de foi, ou plutôt l'incrédulité, parce qu'on ne manque pas vraiment de foi en tant qu'enfant de Dieu. Le fait de ne pas croire, de mettre la parole de Dieu en dessous de ce que Dieu, de nos circonstances et de nos points de vue. Demande à Christelle comment elle a dû vivre sa guérison. Elle a dû soumettre d'une manière absolue ce qu'elle ressentait. Et dire « je refuse » et on a dû prier. Ce n'était pas prier dans le sens « Seigneur, guéris-la » parce qu'elle est déjà, l'Esprit de Dieu est disponible. C'était « Seigneur, fais-nous marcher dans cette réalité, nous refusons de marcher hors de cette réalité de Dieu. » Amen. Donc vous voyez, ils refusaient ou rejetaient contre eux-mêmes le conseil ou le plan, ça dépend, ou le dessein, ça veut dire un peu le plan général, vous voyez, la vie prévue par Dieu. Ils ont rejeté la vie de Dieu qui était prévue pour eux. Vous vous rendez compte ? Vous voyez, c'est possible de rejeter. Élisée, il a rejeté une partie de l'œuvre du Saint-Esprit et l'autre, elle était puissante à l'œuvre en lui, au point qu'un homme a été guéri après sa mort. Vous vous rendez compte ? À quel point c'est puissant ? Enfin, pas guéri, seulement ressuscité après sa mort. Vous imaginez ? Et donc, ça veut dire que Dieu... C'est pour ça qu'il y a des hommes de Dieu qui meurent malades. Des grands hommes de Dieu. Il y avait un homme de Dieu... Comment se nomme-t-il ? Son nom m'échappe. Mais en gros, quand les gens étaient malades, ils les guérissaient un par un. Les gens étaient gravement malades, certains. Et d'un coup, choup, il se levait et il courait. Et lui, il est mort malade. Il y a un autre homme, alors lui, il ne faisait pas de guérison, mais les enseignements qu'il donnait étaient tellement puissants que les gens, en l'écoutant, étaient guéris. Vous imaginez ? On ne parle pas d'imposer les mains, juste à l'écouter. Les gens venaient s'asseoir, ils l'écoutaient, ils se levaient, ils se rendaient compte qu'ils étaient guéris par Dieu. Il est mort d'une crise cardiaque. Vous voyez ? Des grands hommes, comment se fait-il ? Parce que beaucoup ont confondu de « vu que Dieu passe par moi pour guérir, eh bien cette puissance, tant qu'elle est dans mon corps, elle va me guérir. » Non, c'est un autre ministère, vous voyez ? Le Saint-Esprit exerce deux ministères. Il passe par nous pour exercer un ministère, mais il veut exercer un ministère en nous. Il y a un homme de Dieu, grand homme de Dieu. Je préfère pas mentionner les noms, parce que c'est des choses négatives. Il prêchait, toujours magnifique. Il était retrouvé mort après une croisade, rempli de drogue, avec des prostituées hommes autour de lui. Comment est-ce possible que l'Esprit de Dieu a pu exercer un tel ministère au travers de lui ? Et que lui, dans sa vie personnelle, l'horreur. Vous voyez un peu l'idée ? Pourquoi ? Mais vous voyez, ça répond à une question, parce que à l'époque, les évêques de l'Église, dans l'an 400, ils se sont posés la question. Ils ont dit, est-ce que l'Esprit de Dieu peut opérer par une personne qui a une vie morale abjecte, ou même loin de Dieu ? Et ils se sont posés sincèrement la question. Est-ce que si un homme qui vit dans le péché baptise un enfant, est-ce que le baptême est valable ? Vous voyez un peu l'idée ? Est-ce qu'un homme qui vit dans le péché, qui distribue l'hostie, est-ce qu'il a le droit de le faire ou est-ce que l'hostie n'est plus valable ? C'est une question. La réponse, ils l'ont trouvée et elle est juste. C'est oui, elle est valable. Et c'est apeurant pour l'âme du gars. Parce que juste parce qu'il voit l'Esprit de Dieu agir dans la vie des autres au travers de lui ne veut pas dire que lui est approuvé. C'est pour ça que Paul a dit, je me prends et je prends mon corps avec dureté parce que après que moi j'ai prêché à d'autres, je sois rejeté. Voyez un peu l'idée ? Ne vous laissez pas méprendre pour vous qui êtes appelés au ministère. Si Dieu passe au travers de vous pour toucher les gens, ne veut pas dire que vous, il est content avec vous personnellement. Vous êtes un canal dans ces cadres-là. D'accord ? Donc faites gaffe à ça. Hein. C'est pour ça qu'on peut demander à 2-3 personnes ici. Comment ça se fait qu'on connaît des pasteurs ici qui sont horribles dans leur vie privée ? C'est des gens mauvais, mais l'Esprit de Dieu passe par eux quand même. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu peut passer par eux. Et vous savez quoi ? Je vais même aller plus loin. Vous pouvez recevoir ce que l'Esprit passe au travers d'eux. Vous pouvez, et c'est légitime. Après, si c'est des gens mauvais dans leur vie personnelle, évitez-les peut-être dans leur vie personnelle. Mais le fait qu'un pasteur, vous savez quoi ? Un pasteur pourrait tromper sa femme le samedi soir, venir à l'église le dimanche matin et distribuer la puissance de Dieu comme toujours. C'est possible. C'est pour ça que vous ne laissez pas avoir par ce qui marche. Des fois, personnellement, je fais confiance au ministère du Saint-Esprit, amen, mais je sais très bien qu'il y a certaines personnes, même dans notre ministère, à qui je ne donnerai pas accès à ma vie. Parce que je n'ai pas envie qu'ils parlent des choses négatives, qu'ils amènent leur influence mauvaise. Voyez ? Et pourtant, le Saint-Esprit passe au travers d'eux. C'est quand même fort, hein ? Là, on comprend pourquoi. Donc, vous voyez, ils ont rejeté le plan de Dieu à leur égard. Il faut qu'on avance, il est quelle heure là ? Ouh là là. Et 30, ça va, on a encore un peu de temps. Exode 20, chapitre 20 et verset 18. Vous allez voir, c'est beau. Faites attention à certains pasteurs. Juste parce que l'Esprit de Dieu passe au travers d'eux pour le ministère ne veut pas dire que leur vie est alignée à ce que Dieu veut. Et tout le peuple aperçut les tonnerres et les flammes et le son de la trompette et la montagne fumante. Et le peuple vit cela et ils tremblèrent et se tinrent loin et dirent à Moïse, « Toi, parle avec nous et nous écouterons, mais que Dieu ne parle point avec nous de peur que nous ne mourions. » Dieu, il n'est pas stupide à part ça. S'il est prêt à vous parler, c'est que vous n'allez pas mourir. Et pourtant, eux, ils étaient là, « Non, on va mourir si on parle à Dieu, on refuse sa communion. » Donc, ils ont vu Dieu... Comme... Dieu sait, c'est comme les gens, des fois, ils sont là. Mais tu sais pas ce que j'ai fait. Christ, il peut pas me pardonner. Je suis pas une méchant, mais s'il a pardonné les gens qui l'ont crucifié, je pense pas que tu as fait pire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même drôle. Hein. Non, j'ai fait vraiment pire. Ouais, ouais. Dieu pardonne tous les péchés. Amen. Il fait la rémission d'absolument tous les péchés. D'ailleurs, je vous ai déjà dit, Dieu pardonne pas vraiment nos péchés. Il fait une rémission. Pardonner, c'est dire, tu as fait telle erreur, je la marque comme payée. Remettre, les péchés, ça veut dire, j'annule ce péché comme s'il n'a jamais existé. Amen. Ok. Donc là, il ne voulait pas parler avec le Seigneur. Mais maintenant, nous allons parler. Les enfants d'Israël virent Dieu dans la peur. Mais Moïse, pas du tout. Moïse, il voyait Dieu comme une source de vie. Au point que quand il est descendu de la montagne, son visage brillait de mille feux. C'est beau, hein ? Section 3. Activer cette puissance. On va voir comment activer cette puissance rapidement. 2 Corinthiens 3. Regardez. Verset 1. 2 Corinthiens 3 à partir du verset 1. Ouh, vous allez voir, c'est si merveilleux. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est construit, c'est pour ça qu'on vient à l'église. Maintenant, vous allez faire attention, parce que quand vous allez prier pour quelqu'un et qu'il est guéri, ça ne veut pas dire que vous allez marcher dans la guérison, c'est un autre ministère. C'est beau, hein ? Commençons-nous donc, pardon, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation pour vous, ou de lettres de recommandation de votre part? Verset suivant. Vous êtes, vous, notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Amen. Car vous êtes manifestés comme étant la lettre de Christ, dressée par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair du cœur. Donc vous voyez, la loi de Dieu s'est inscrite dans vos cœurs. C'est beau, hein? Ce verset suivant. Or, nous avons une telle confiance par le Christ envers Dieu. Non que nous ne soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Dites, ma capacité vient de Dieu. Vos gains d'âme, ça vient de Dieu. Votre business, ça vient de Dieu. Toutes ces choses viennent de Dieu. Vous prospérez par Dieu. Votre capacité vient de Dieu. C'est pour ça que vous réussissez. C'est pour ça que votre réussite est presque insolente. Vous comprenez? Les gens, des fois, on parlait des fois avec, vous savez, maintenant ça s'est un peu arrêté, mais les assureurs, on devait aller faire des formations régulières que l'État nous demandait de faire. Et je me retrouvais avec plein d'autres courtiers d'assurance. Et chaque fois, ils se plaignaient de trucs. C'est là, c'est dur, on gagne moins notre vie qu'avant. Je dis, ah, ok. Donc moi, je ne l'ai pas remarqué. Hein. Pour le coup, c'est contraire, moi. Hein. Et du coup, ils se plaignaient, même machin. Et moi, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi maintenant. Je ne sais pas pourquoi au niveau du fonctionnement humain. Mais j'ai toujours des solutions à tout. J'ai toujours tout qui marche. Peut-être c'est parce que je laisse cette puissance vivre en moi. Et croyez-moi, j'en ai des défis. Hein. Parce que les gens pensent, vous voyez, ils me voient toujours immaculé à l'église comme ça. Croyez-moi, j'en ai des défis. Demandez à mes parents, j'en ai des défis, énormément. Mais chaque fois, je suis là, c'est du pain pour moi. Je vais grandir, vous voyez. Je vais le grignoter. Amen. Vous avez un défi, c'est du pain. C'est l'occasion de grandir. Un truc qui paraît un petit peu contraire, c'est l'occasion d'aller, d'avancer, de progresser. Quelqu'un ne vous aime pas, vous dites, eh bien moi je l'aime gratuitement. Alléluia, c'est l'occasion d'exercer mon amour gratuit. Quelqu'un ne vous apprécie pas et parle mal de vous, vous dites, ah c'est l'occasion de parler aux gens du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il n'y a pas de mauvaise pub. Pasteur Chris, une fois, il nous a dit, il n'y a pas de mauvaise pub. Si on parle de vous, on parle de vous. Dites, ma capacité vient de Dieu. Verset suivant, regardez. Qui nous a rendus propres aussi pour être ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne vie. Notez ce qu'il dit. Or, c'est le ministère de la mort. Donc là, il parle d'un ministère de la mort, mais un ministère de la mort qui venait de Dieu, dans le sens qui, quand il l'appelle ministère de la mort, il est un peu dur exprès pour dire il ne donnait pas la vie. C'est ça qu'il essaie de dire. Gravé en lettres sous des pierres et a été introduit avec gloire, de sorte que les fils d'Israël ne pouvaient arrêter leurs yeux sur la face de Moïse. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas regarder Moïse. À cause de la gloire de sa face, laquelle devait prendre fin. Donc là, il nous a fait une belle phrase. Combien plus le ministère de l'Esprit ne subsistera-t-il pas en gloire? Donc vous voyez, vous glorifiez. Une des manières d'activer cette puissance, c'est de contempler les Écritures. Verset suivant, regardez. Car si le ministère de la condamnation a été gloire, combien plus le ministère de la justice abonde-t-il en gloire? Dites, j'abonde en gloire. Verset 10, regardez, c'est merveilleux. Car aussi ce qui a été glorifié n'a pas été glorifié sous ce rapport, à cause de la gloire qu'il emporte de beaucoup. Continue encore. Car si ce qui devait prendre fin a été introduit avec gloire, bien plus ce qui demeure subsistera-t-il en gloire. Vous subsistez par la gloire. Vous subsistez par l'Esprit de Dieu en vous. Amen. Continue encore. Ayons donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté. Vous voulez commencer une entreprise, vous y allez. Vous voulez gagner telle âme, vous y allez. Vous voulez faire ci, vous le faites. Vous avez une grande liberté en Jésus-Christ. Amen. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur sa face pour que les fils d'Israël n'arrêtassent pas leurs yeux sur la consommation de ce qui devait prendre fin. Mais leurs entendements ont été endurcis jusqu'à aujourd'hui dans la lecture de l'Ancienne Alliance. Ce même voile demeure sans être levé, lequel prend fin en Christ. Maintenant, notez bien. Mais jusqu'à aujourd'hui, lorsque Moïse est lu, parce qu'il a écrit des choses, Moïse, le voile demeure sur leur cœur. Notez bien. Mais quand il se tournera vers le Seigneur, le voile sera ôté, car le Seigneur est l'Esprit. Mais là où l'Esprit du Seigneur est, il y a la liberté. Ok ? Regardez bien. Or, nous tous, ok, il a fait toute cette discussion pour arriver à ça. Or, nous tous, dites-moi, regardez, or, nous tous, contemplons à face découverte la gloire du Seigneur. Notez bien, comment activer cette gloire qui est en vous? Dites, cette gloire est en moi. Pourquoi? C'est quoi un des titres de Dieu? C'est Père de gloire. Le Père de Christelle, c'est comment ton prénom? Son prénom? Armand. Armand était le père de Christelle. Donc Christelle est la fille, logique, hein. Donc s'il dit le père de Christelle, Christelle est Christelle. Logique, hein. Si Dieu est le père de gloire et que nous sommes ses enfants, qu'est-ce que ça fait de nous? gloire. Père de gloire. Donc s'il est le Père de la gloire, il est le Père, nous sommes les enfants, nous sommes la gloire. Amen. Nous sommes transformés. Ok, regardez ça. On contemple la gloire du Seigneur dans la parole de Dieu, dans la prière, l'Église, la justice, la louange. Regardez ça. Et il dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur en esprit. C'est là que l'Esprit de Dieu agit en vous. Dites, l'Esprit de Dieu agit en moi. Donc, une des choses, c'est Saint François d'Assise. Saint François d'Assise contemplait tellement la crucifixion, tellement la passion, que quand ils ont ouvert son cœur, il y avait une forme de croix sur son cœur. Vous vous rendez compte à quel point ça avait transcendé son corps? Est-ce que vous pouvez être tellement débordant de gloire que l'Esprit de Dieu passe au travers de votre corps constamment pour corriger le petit truc ici, corriger ça s'il y a besoin et amener la vie dans votre corps? Amen. Alléluia. Ok. Ensuite, 1 Corinthiens 14,4. Ah, vous allez voir. Vous allez partir d'ici et vous allez vivre dans une telle prospérité. Vous allez vivre dans une telle réussite. L'Esprit de Dieu parambulant même vos pensées pour orienter vos pensées là où vous devez les mettre. Il vous donne des idées surnaturelles. Des idées qui viennent comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui est derrière ça. Regardez ça. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'assemblée. Donc quand vous parlez en langue, vous vous construisez pour être ce temple fort et vigoureux. Amen. N'emmenez pas le corps du Seigneur n'importe où. Regardez, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez que quand on jeûne, il y a un truc, moi, je suis devenu un mouton inversé, si j'ose dire. C'est-à-dire que dès que la masse dit quelque chose, je vais penser le contraire. Vous voyez ? Par exemple, quand ils disaient « Faites-vous tous vacciner ?» Je suis là « Oula, ouais non. » Quand ils disent « Ne mangez pas de viande. » J'en mange plus, vous voyez un peu l'idée. Quand ils disent « Faites pas trop de sport. » Vous savez que maintenant, ils disent qu'il ne faut pas faire trop de sport. Vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule ? Il faut être plus statique parce qu'on s'adapte. Comme ça, on pourra adapter notre corps. Bref, débile. Et il y a un truc qui ne parle jamais en bien ou qui n'en parle jamais tout court. C'est quoi ? Le jeûne. Maintenant, j'ai appris qu'il y a un gars qui a gagné le prix Nobel en biologie, je pense, parce qu'il a découvert que quand on jeûne, vous savez ce qui se passe à partir du troisième jour ? Votre corps, il doit aller chercher des nutriments. En fait, il a une liste de nutriments à aller chercher. Le premier truc qu'il va regarder, c'est ce qu'il y a, je ne sais pas comment on appelle, mais en gros, ce qui reste dans le foie. Donc, il va aller chercher tout ce qu'il peut dans le foie. Il va vider le foie ou le système digestif. Il va le vider au point que la perception d'insuline est réinitialisée dans beaucoup de cas. Il y a des gens qui ont le diabète, qui jeûnent 5 jours et ils n'ont plus le diabète. Ok, il se passe quoi ensuite ? Il va chercher le corps, une fois qu'il a mangé, il ne va pas chercher les graisses tout de suite, contrairement à ce qu'on pense. Pourquoi ? Parce que les graisses, en fait, elles sont bien. Le corps doit les garder, c'est une bonne réserve. Il ne va pas manger les muscles non plus tout de suite, contrairement à ce qu'on pense. Il va aller chercher l'eau qui se trouve dans les muscles. Et après, il va faire quoi ? Il va aller manger les cellules un tout petit peu malades ou un tout petit peu déréglées. Et vous savez quoi ? D'où viennent les cancers ? De cellules déréglées qui se sont accumulées et qui maintenant peuvent se répandre. Donc, en fait, les gens qui jeûnent, c'est pour ça que Jésus a dit « quand vous jeûnez, pas si vous jeûnez ». Donc maintenant, si vous jeûnez, vous prenez soin de votre corps et en plus, vous mettez une dimension spirituelle. Donc, ne rien manger pendant 5 jours, vous réinitialisez votre corps. C'est quand même fou ! C'est merveilleux, hein ? Pourquoi vous pensez que Pasteur Chris veut qu'on jeûne 3 jours par semaine minimum ? Faites-le, hein ! C'est pas pour rien. L'Esprit de Dieu qui a donné cette instruction. Je vais le donner pendant les annonces. Ne mangez pas ! Buvez un peu. Buvez même beaucoup d'eau, c'est bien, pendant que vous jeûnez. À moins que vous fassiez des jeûnes où vous mangez et vous buvez pas. Donc, vous voyez comme c'est bon ? C'est merveilleux, hein ? Donc, prenez soin du corps de Christ. Amenez pas le corps de Christ n'importe où. Est-ce que vous allez amener le corps du Christ n'importe où ? Non ! Vous êtes enfant de Dieu, amen ! C'est beau, hein ? Et ne mettez pas n'importe quoi dans ce corps. Ne mettez pas du McDo ou je ne sais quoi dans votre corps. Vous voyez ? Prenez soin de votre corps, amen ! Et donc, comment activer ça ? Contempler Christ. Numéro 2, parler en langue. Parler beaucoup en langue. L'apôtre Paul se vante, il dit « Je parle plus en langue que vous tous mis ensemble. » Et ensuite, Luc 10, 19, « Exercer l'autorité qu'on a reçue. » Et là, vous allez voir, c'est splendide. « Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous nuira. » Vous voulez que le Saint-Esprit parambule dans votre corps ? C'est vous qui avez l'autorité de chasser les esprits méchants. Le Saint-Esprit ne chasse pas les esprits méchants de lui-même, vous saviez ça ? C'est nous qui chassons les esprits méchants. Si l'esprit méchant essaye de venir voler votre santé, dehors au nom du Seigneur Jésus, loin ! même pas qu'il essaye, juste qu'il s'approche du périmètre qui est autour de vous. Vous dites dans le nom du Seigneur Jésus, je refuse que le diable vienne voler quoi que ce soit. Je refuse qu'il vole mes finances, je refuse qu'il vole mes idées surnaturelles. C'est déjà arrivé à des gens, vous avez des bonnes idées et vous les oubliez. Vous savez d'où ça vient ça? La Bible dit que le diable vient pour voler. C'est le diable qui vole ces choses. Pourquoi? Parce que vous avez une bonne idée, vous l'écrivez, vous la mettez en pratique, vous gagnez 1 million et vous donnez 750 000 à l'œuvre de Dieu. Le diable, il ne va pas être content. Hein. Le diable, il a peur des gens riches. La Bible montre. Hein. Vous savez que la Bible dit ça? Il a peur des enfants de Dieu qui sont riches. C'est une des premières marques qu'il met sur eux. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir la meilleure sagesse du monde. S'il n'y a personne qui vous écoute, qu'est-ce que ça va faire? Par contre, si on a la meilleure sagesse du monde en Jésus-Christ, et que tout d'un coup, on commence à acheter des banderoles de partout, on met des panneaux publicitaires partout, on sponsorise des événements en masse. Vous imaginez, vous arrivez à un match de foot, c'est marqué « Jésus-Christ est Seigneur » en géant. Là, tout d'un coup, ça commence à tendre un petit peu le diable. Hein. Il a « Ouh, je vais attaquer les finances ». Une des premières choses que le diable attaque chez quelqu'un, c'est ses finances. C'est pour ça que la plupart des gens sont encore aujourd'hui maintenus dans la pauvreté. J'ai vu un truc, la plupart des gens n'ont même pas 400 francs de côté, vous vous rendez compte? 400 francs! C'est le diable qui vient voler ça. Parce que Dieu peut faire multiplier vos finances, vous savez. Dieu veut le faire. Et fait multiplier notre capacité. Tout d'un coup, on a plus de capacité d'absorption. On a des idées surnaturelles qui viennent. Dieu est bon et Dieu veut vous faire réussir, vous voyez. Vous devez collaborer avec Dieu, c'est pour ça qu'on vient à l'église, c'est pour ça qu'on prie le matin, c'est parce qu'on collabore avec lui, on collabore avec sa grâce, amen. Alléluia, dites je suis fort et plus que vainqueur. Et maintenant, mettez votre focus sur les choses de Dieu. Ne vous perdez pas, oh, Dieu va me rendre riche, comme ça je pourrais m'acheter une lambeau. Laissez tomber ces choses-là, votre lambeau vous ne l'emporterez pas au ciel, d'accord. Il n'y a pas de mal à avoir une Lamborghini. Moi, j'en ai pas, personnellement. Mais pour vous dire, il n'y a pas de mal à ça. Mais c'est un problème quand cette chose vous possède. Personne n'a le droit de la toucher, c'est la mienne. Vous voyez, c'est bizarre. Il y a certaines personnes, ils ont leurs vêtements, elles ont encore leur robe de mariée. Au lieu de la donner à une sœur qui n'a pas l'argent de s'en acheter une, donnez votre robe de mariée. Vous allez la garder combien de temps? Ce n'est pas comme si vous allez vous remarier. Vous voyez? Gloire à Dieu. Vous êtes coincé, de toute façon, vous ne rentrez plus dedans, de toute façon. Donc, attention, attention. Gloire à Dieu, vous voyez l'idée? Donnez vos robes de mariée. Non, mais je suis attaché émotionnellement. Hop, vous en rachetez une autre alors. Donnez-la. Je suis sérieux. On est enfant de Dieu. Donnez vos vêtements. Vous avez des vêtements qui traînent, qui ne vous vont plus. Donnez-les. Je le fais régulièrement, à peu près. C'est quand la dernière fois que j'ai amené mes chemises là? Oui, la dernière fois, avant. L'année passée, hein, je pense à peu près l'année passée, peut-être il y a une année et demie, j'ai amené mes chemises aussi. Profitez de mes chemises, messieurs. Ou mesdames, si vous arrivez à en faire quelque chose de joli. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez prospères. Ne gardez pas les choses. Jetez-les. Si elles prennent de la place, c'est que vous ne l'utilisez pas. Soyez prospères. Donnez les choses. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous lever. On va faire la consécration des éléments. On va prendre part au corps du Christ. Amen. Alléluia. Levez les mains vers Dieu et bénissez Dieu. Remerciez Dieu pour son œuvre en vous, pour la puissance qui est disponible dans votre esprit.